Bienvenue dans la deuxième saison de Cast. Le principe n'a pas changé. On reçoit toutes les semaines les personnalités qui font et défont la mode. Des talents, mais surtout des histoires de vie touchantes et inspirantes. Chacun leur tour, nos invités viennent nous raconter sans détour leur parcours, leur expérience et leur vision de l'industrie. C'est parti.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
Et la Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those ? Dior clothes.
It's fashion art.
Yes.
Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Ok, you know now, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know.
That's all, that's all.
On reçoit aujourd'hui Brune Bonomano, vice-présidente de Mazarine Group. Elle revient avec nous sur son parcours, de ses racines familiales à son ascension dans l'univers des agences publicitaires, en passant par des voyages formateurs et ses rencontres marquantes. Bonjour Brune.
Hello.
Bonjour, comment allez-vous?
Très bien. Et toi?
Ça va super.
Merci d'être avec nous.
Ben, merci à vous de me recevoir.
C'est un honneur.
Grave.
comme tous les invités du podcast, on aimerait que tu nous racontes un petit peu ton parcours. Tu le commences comme tu veux, à l'école, l'enfance, et que tu déroules gentiment jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, d'où tu viens déjà?
Cool.
Où est-ce que tu es né?
Où est-ce qu'on va commencer? Je crois qu'il faut commencer peut-être même avant moi, pour dire d'où je viens, ça remonte.
C'est important.
Ouais. La moitié de mon sang, c'est l'Arménie. Ça date de mes arrière-grands-parents. Ils ont fui l'Arménie au moment du génocide. J'attaque...
Ouais, direct. Goodbye.
Ah ouais, vraiment. Le matin ensoleillé. Ils ont rejoint Marseille un peu presque à pied, tu sais.
Ouais. Une grosse communauté arménienne, non, d'ailleurs, à Marseille.
Ouais. Ouais, ouais, c'est l'autre maison Alfort. Et en fait, ils ont remonté à partir de pas grand-chose ce qu'ils avaient laissé là-bas, c'est-à-dire une bijouterie. Parce que c'était le seul métier que les hommes apprenaient à faire de père en fils dans cette famille. Et entre Arméniens, bien sûr, mon grand-père et ma grand-mère ont fondé leur famille à Marseille, où ils sont nés. Donc c'est la première génération de Français dans ma famille. Et de l'autre côté, pareil, ils viennent d'ailleurs, c'est des pêcheurs italiens qui sont allés se mélanger avec des Kabyles.
Wow.
Ouais, et qui sont arrivés à Marseille dans les années 60, au moment de la guerre de décolonisation. Et c'est comme ça que toutes ces guerres, tous ces exils ont mis mes parents au même endroit dans les années 60.
C'est ouf.
On peut remercier ces guerres, c'est ça qui est triste. Parce que c'est comme ça que mes parents, eux, tombent amoureux là-bas, à Marseille. Et quittent Marseille quand mon père dit à ma mère, moi, je vais pas moisir ici.
Ah
et,
ouais.
Et elle, par amour, elle va le suivre alors qu'elle aurait été très, je pense, très heureuse de nous avoir à Marseille. Nous, enfants, on captait pas du tout qu'ils aient pu quitter la mer pour la ville. Mais après, tu comprends quand tu grandis.
Mmh.
Et voilà. Et ils sont arrivés dans le Val d'Oise, à Argenteuil. Moi, je suis née à Enghien-les-Bains.
Okay.
Et c'est là que j'ai grandi, dans cette famille qui parle fort, vous vous en doutez.
Ah, c'est la Méditerranée, là.
Ah ouais, c'est intense. Et puis entre Paris et Marseille, puisque évidemment tout le monde à part mes parents était resté fidèle au QG. Donc
vous faisiez des allers-retours, les vacances.
Donc on allait beaucoup les voir. J'ai eu la chance d'être très, très, très proche de mes grands-parents.
Tu as découvert Marseille avant que les Parisiens découvrent avec le Covid Marseille. T'étais en avance.
C'était pas du tout la fraîcheur.
Ouais.
Mais c'était chez moi. Je m'y sentais, on s'y sentait chez nous quand on y allait et c'était génialissime. Et je pense que ça m'a aussi beaucoup structurée. J'en parle parce que, bien sûr, j'ai grandi ici et en même temps, j'ai aussi beaucoup grandi. Tu sais, on dit que les enfants, ils grandissent en accéléré pendant les vacances. Je crois que c'est vrai. Donc moi, j'étais beaucoup aussi là-bas avec eux. C'était extraordinaire. Et plus nucléiquement, je viens d'une fratrie de trois.
Okay.
Je suis chef de meute, d'une fratrie de trois. J'ai deux petits frères extraordinaires, Florent et Théo. Un qui est un peu mon twin, parce qu'on n'a que 3 ans d'écart. Et un qui est un peu mon premier bébé, dont je suis un peu la deuxième maman, parce qu'on a 11 ans d'écart, Théo.
Ouais.
Et bah voilà, j'ai de la chance parce que ça, c'est un ciment de folie qui est encore là aujourd'hui, hein, heureusement. Voilà, donc tout commence comme ça.
Très bien.
Tout commence par ce terreau
familial.
Ce terreau familial très fort, très, très présent. Et très présent encore aujourd'hui autour de mon fils. Donc un truc vraiment. On se passe, c'est liquide quoi. Ceux qui sont plus là, sont encore là. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on en parle et tout. Ça, c'est important.
C'est beau.
Les valeurs de famille.
Je crois que c'est de là qu'on vient avant toute chose. Après, les diplômes et les voyages s'occupent du reste, mais c'est accessoire à côté de, je crois, hein, à côté de ce qui nous structure par l'affection, quoi, par l'amour. Ouais. On est quand même très structuré par l'amour.
C'est le ciment, la famille.
Ouais, ouais. C'est une grande, grande, grande chance. Surtout quand tout se passe en douceur, quoi.
Ouais, c'est clair.
Après, tout le monde a ses défauts, mais je peux pas vraiment vous dire que je viens de la galère, c'est pas vrai. C'était tellement génial, quoi.
Mais du coup, à part cette envie de renouveau, qui est une raison suffisante, hein, mais qu'est-ce qui amène ton papa à Paris, enfin, en tout cas en région parisienne?
Je pense que l'exil, ça crée un truc un peu. Ça crée un petit choc qui fait que. T'es pas forcément disposé à tomber amoureux de l'endroit où tu arrives par de force, en quelque sorte.
Ouais.
Parce que il est arrivé d'Algérie avec une famille qui s'est déracinée du jour au lendemain, qui ne connaissait que l'Algérie. Mon grand-père, lui, était né à Bizerte, en Tunisie. Et donc, en fait, du jour au lendemain, ils ont quitté tous les gens qu'ils aimaient, le pays qu'ils aimaient. Et dont ils se sentaient infiniment plus proches que.
Et encore, ils sont passés par la case Marseille, qui est genre un tampon entre, entre les deux.
Et donc, je pense que pour mon père, c'était déjà un héritage compliqué que de regarder Marseille dans les yeux, parce que je pense que ça représentait beaucoup trop de déchirement. Alors que partir, choisir la suite, peut-être c'était comme reboot le système. Et par ailleurs, mon père, il a besoin d'être là où ça se passe. Il aime bien, il aime apprendre, comprendre, se cultiver. C'est un assoiffé d'art, de culture. Et je pense qu'à Marseille, en tout cas à l'époque, il avait pas ce qui lui. Il a vite fait le tour, quoi. Il a besoin d'être beaucoup plus nourri que ça. Et Marseille, ça paraît fou de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Hein, parce qu'en plus, ce n'est pas un problème pour ma mère, par exemple, ce qui ne la rend pas moins intéressante, mais trop petit pour lui. Mmh. C'est vraiment trop petit pour lui. Et après, de Paris, ils se sont mis à rayonner un peu partout, curieux du reste, et nous emmenant voyager et tout, parce que, voilà, il avait une curiosité que peut-être la moyenne marseillaise ne lui envoyait pas. Okay. Mais je pense surtout que symboliquement, il avait besoin de quitter l'endroit du malheur.
Ouais,
ils ne se sont pas sentis très accueillis.
Ok, ok.
Et donc, le parcours scolaire allez, fais-nous rêver.
Le parcours scolaire... je pourrais faire rêver parce que ça s'est très bien passé pour moi sur le papier, littéralement. J'étais vraiment une première de la classe.
Ah, oui. Je t'en présente une autre, là. Vous avez besoin de toi toutes les deux.
From day one. Mais vraiment cool, parce que sans trauma, quoi. C'était voilà, je mentirais en vous disant que c'était dur. Ça s'est très bien passé. C'était facile. L'école, c'était facile pour cette partie-là. C'est pour ça que je dis sur le papier, parce que les premières années, c'était quand même pas évident tous les jours. J'étais dans un privé catholique dans lequel il n'y avait pas beaucoup de petites filles qui me ressemblaient. Qui était aussi mélangé que moi. Et du coup, je pense que les premières années, jusqu'à ce que Sarah Gawaou, qui écoutera peut-être ce podcast parce que je lui enverrai, jusqu'à ce que Sarah Gawaou arrive dans l'école, c'était moins rigolo. Et puis une fois que Sarah est arrivée, le début de mon clan était là et après, ça a tourné. Mais c'était jusqu'à Sarah, c'était très solitaire, donc jusqu'au CP. Parce que les enfants répétaient des trucs qu'ils entendaient à mon sujet chez papa et maman, et des trucs d'un niveau de violence qu'on peut pas imaginer. en tout cas, qu'on m'avait pas appris chez moi, parce que c'était tout sauf violent, et je me prenais des trucs, je rentrais chez moi, je disais à mes parents, mais donc, il paraît que vous m'avez adopté, qu'est-ce que c'est que cette histoire, on va faire le point.
Meeting at 7 p.m. tonight.
Vraiment, là, j'étais en mode convocation. Voilà, mais voilà, à ce détail près, c'était génial, et une fois que j'ai commencé à faire ma bande et tout, c'était super. Je suis restée dans cet établissement jusqu'à la fin du collège. À l'époque, ma passion absolue, c'était le théâtre. J'ai continué à en faire pendant tout mon lycée, qui était un autre privé catholique. mais bon, où je me laissais vraiment plus faire. Et là, je faisais toujours du théâtre, cette fois-ci au cours Simon, où j'allais tous les mercredis après-midi pour professionnaliser l'approche et pour préparer la formation professionnelle, préparer l'audition finale qui donne ou non accès, j'ai prise, à la formation professionnelle du cours Simon. Okay. Parce que j'étais vraiment amoureuse de ce métier, je voulais faire que ça. J'ai fait du théâtre toute mon enfance, ça a été un truc qui m'a rendue hyper heureuse. Et en parallèle de ça, je faisais en sorte que mes parents soient juste contents de mes choix scolaires. Être en S, prendre option langue vivante 6, langue vivante 7. c'est niveau de folie. Et donc j'ai fait tout ce qu'ils voulaient. Et le jour où j'ai eu la formation professionnelle, mes parents m'ont dit, mais Brune, tu vas pas faire ça quand même. Tu peux pas faire ça. Tu vas faire Sciences Po,
tu vas devenir président de la République.
Tu es promise à un grand destin, enfin, extraordinaire. Et j'avoue que là, il y a un premier changement de plan. Donc, dans ma vie, puisque au lieu de me rebeller et d'aller dire au cours Simon, ben, merci de m'avoir choisi, j'arrive en septembre. J'ai dit merci, mais non merci, et je suis allée passer Sciences Po, quoi.
Waouh, ça doit être dur quand c'est vraiment ta passion.
Oui, c'était ma passion, mais vraiment, j'ai zéro regret. Je ne crois pas du tout que c'était mon destin, en revanche, tu vois ce que je veux dire. Je suis complètement allée avec le flow. J'ai eu plein de changements de plan comme ça dans ma vie. Et pour moi, ça fait partie de l'histoire. C'est ça le trajet, quoi. C'est OK de... J'ai aucune colère vis-à-vis de ça. Et quand je vois certains de mes amis qui ont fait carrière dans les métiers du spectacle et tout, je suis trop heureuse pour eux et je n'ai aucune amertume. C'est sans doute la preuve que je suis à ma place, tu vois ce que je veux dire.
Ouais.
Je veux bien, hein, franchement. Mais donc là, je fais un premier truc qui est... une fois de plus...
Écoutez la raison.
Ouais, j'ai une raison de ouf.
Ah ouais, et puis les rendre fiers, c'est comme si moi je me sentais de toute façon investie.
Un devoir.
Ah ouais, un truc vraiment... Et je vais aller passer Sciences Po comme ça.
Mais c'est pas possible.
Après le bac, donc ça marche, heureusement, parce que sinon après j'aurais morflé en prépa HEC à Janson de Sailly et tout, là j'étais pas prête.
Ah, c'est une autre vibe.
C'est une autre... Ouais.
Oh, wow. Le temps d'avoir le résultat de Sciences Po, t'es obligé de commencer ton backup. À l'époque, tu passes le concours le 3 septembre et t'as les résultats le 26, et donc il faut passer ton mois de septembre dans ton backup au cas où tu l'as pas. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais.
Donc il a fallu que je commence la prépa HEC à Janson de Sailly. Bon, voilà, ça c'était pas fun du tout. Donc, Dieu merci, j'ai eu Sciences Po. Et là, je suis allée ouvrir mon esprit pendant les premières années de tronc commun sur... le droit constitutionnel, la vie politique, l'économie. Dominique Strauss-Kahn était mon prof d'économie et Olivier Duhamel était mon prof de droit constitutionnel un autre temps. Richard Descoings dirigeait l'école à cette époque, bref. Et là, à ce moment-là, moi, en parallèle de ça, mes parents me disent il faut que tu travailles, Brune, maintenant que tu es étudiante.
Back to reality. Géniaux.
Tu restes chez tes parents pendant tout ce temps ou tu prends ton indépendance déjà?
Je vis toujours avec mes parents. Et à 18 ans, littéralement 18 ans et un jour, ils me disent,
allez,
il faut que tu retrouves ton job étudiant. Je dis, je vais aller en club. Et ils m'ont dit, non, tu vas pas travailler derrière un bar, il faut travailler avec ton cerveau.
Oh, c'est ouf, ma mère, elle me disait la même chose.
Ouais. Il y a un mec à Saint-Lazare qui m'a dit qu'il faisait un casting sauvage, il voudrait me revoir, machin. Casting sauvage.
Compagnon.
Tu vas pas du tout faire ça. Je sais pas, à l'époque, tu penses que je l'ai pas reconnu. mais de toute façon, moi, je me suis pris un stop bien avant ça. Donc, je suis allée écrire des piges au journal du Parlement.
Waouh! Wow. Ouais. Un enfer.
Ah, je suis l'enfant rêvé, sincèrement. Ouais. Vraiment. Au lieu de travailler en boîte de nuit.
C'est pas la même ambiance, non. C'est pas bagatelle.
Non, non. Là, ils m'ont bien reprogrammé aussi. Et peut-être qu'ils m'ont tenu à l'abri de en fait, pas mal de, ouais. de débordements ou de dangers. Peut-être qu'ils voyaient aussi mon potentiel fêtard et voilà. Mm-hmm. Et pour quand même venger mon amour de la fête, ouais. je me suis calée au BDE de Sciences Po.
Évidemment.
J'ai loué le Queen, le Madeleine Plaza, le Jubus, les uns après les autres. Et j'ai organisé les fêtes de l'école qui, en plus, était un business model. Tu vois, tu vendais
ouais, bien sûr.
Tout un ticketing et tout. C'était assez marrant à faire. Et avec ça, plus les piges, plus les cours, j'arrivais à me tenir un peu occupée parce que j'étais déjà bien speed. Et ça, c'était super. Et là, il se passe un autre changement de plan, c'est que pour la troisième année à l'étranger, à Sciences Po, on te propose de partir où tu veux, où tu tentes. Et moi, je me voyais déjà en stage dans un magazine à New York.
Comme
et
tout
à la place, comme tout le monde. Et à la place... les choix des uns et les choix, les conseils, l'orientation, les trucs et tout, m'ont envoyé en Californie, à Berkeley, étudier.
Donc, t'as fait le choix de
l'université versus les stages. J'ai tenté New York, j'ai eu Berkeley. Et quand t'as Berkeley, déjà, t'es contente. En fait, tu dis merci. Sauf que moi, je ne voulais que la vie d'une New Yorkaise. Mm-hmm. Je rêvais pas du tout. La West Coast me faisait pas du tout rêver. Et en même temps, je vous dis tout ça, je savais pas ce que c'était les États-Unis.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce que quand t'arrives sur le campus de Berkeley, t'es content normalement.
Ah, bah, une fois que j'y étais. En fait, j'ai fait ma minette quand j'ai appris les résultats parce que je connaissais rien.
Ouais.
Et puis en fait, j'ai posé le pied, je m'en souviens toute ma vie. Bon, ma mère pleure, je vous passe les détails. Je suis en plus, j'ai un amoureux que je laisse à Paris, qui m'en veut de folie et tout. Et puis j'arrive sur le territoire américain et dans un pays que je ne connais pas et où je connais littéralement zéro être humain.
Ah, donc,
et là, j'ai 20 ans. Mmh. Et je pense que ça, c'est extrêmement formateur quand même. Même si on doit beaucoup à tout ce qui s'est passé avant nous et dans notre enfance, ça, c'est là je vais commencer une année qui, je crois, change complètement ma façon de réfléchir et d'appréhender le monde, parce que je vais croiser bien plus qu'à Paris ou à Sciences Po un nombre de personnalités, de cultures, d'esprits ouverts et lumineux, absolument exceptionnels. Et je parle pas que des gens dans le campus, mais aussi des gens qui vivent autour de la misère que tu croises beaucoup plus fort, qui te marque vachement en fait quand t'arrives aux États-Unis, parce qu'elle est traitée très différemment.
Il y a beaucoup plus de mixité aussi, parce que je pense qu'à cette époque-là, c'est juste le début des programmes de Sciences Po où ils essayent d'aller chercher justement un peu de mixité, mais c'était... Enfin, Sciences Po à cette époque-là, je pense que c'était très très blanc.
Ouais, ils venaient d'ouvrir les conventions ZEP et donc... ça commençait à aller mieux.
C'est vrai que toutes les hautes écoles, tout ça, enfin, moi, d'un point de vue extérieur, j'ai toujours vu ça, genre un truc qui est vraiment axé que pour ce genre de type de personnes, tu vois. Mm-hmm. Et aux États-Unis, t'arrives sur des campus où Harvard ou quoi que ce soit, où c'est mixité totale, des gens qui arrivent d'autres pays, d'Asie, de trucs, c'est pas du tout la même culture, quoi.
Ouais, bah d'ailleurs, dans ta fiche pour l'endroit où j'allais dormir, qui s'appelle International House, tu dois dire à quelle section tu appartiens, si t'es Asian, etc. Mmh. Et là, en tant que Français, tu fais un petit... Bien évidemment, tu fais un petit recul de « Wow, c'est quoi cette question ?» Tu vois, c'est un truc... Et puis alors, me concernant, je savais même pas...
Moi, c'était pareil, je savais même pas quoi dire.
Tu sais pas quoi répondre, tu vois. Et ceux qui étaient rentrés par la convention ZEP en même temps que moi à Sciences Po... parmi eux, il y a aujourd'hui des députés, une envoyée spéciale à la Maison Blanche qui s'appelle Sonia, qui j'enverrai ce podcast.
T'as intérêt de l'envoyer à tout le monde, hein,
vraiment des gens très brillants, qui m'ont donné envie d'ailleurs de m'engager ensuite un peu plus tard dans les conventions ZEP de Sciences Po et d'aller dans des lycées autrement plus durs que celui que moi j'ai fréquenté, pour aider les lycéens à préparer leurs entretiens pour Sciences Po, parce que je trouve que c'est un ascenseur extraordinaire, et qu'en fait, bien sûr que quand tu grandis dans un trajet dans lequel ni tes professeurs ni tes parents ne considèrent Sciences Po comme une possibilité, Sciences Po ou n'importe quoi d'autre, les Beaux-Arts ont ouvert une prépa qui s'appelle la Via Ferrata, et qui consiste à aller chercher les gamins dans des quartiers, dans des villes, dans des campagnes dans lesquelles la carrière d'artiste
c'est même pas envisageable, n'est pas envisagée.
C'est pas considéré, c'est pas posé sur la table.
Donc en fait ça ne fait même pas partie des possibilités. Et c'est pas par jugement, parfois c'est juste par méconnaissance de ce qui existe. Donc en fait, si tu vas pas partager ça, à ce moment-là, on reproduira les schémas. La reproduction sociale n'a jamais de fin. Si tu croises pas comme ça à un moment, tu vas pas chercher. Donc moi, je suis pour cette forme de discrimination positive qui consiste à aller déclencher des rencontres qui n'auraient pas eu lieu dans la fatalité des choses. Donc voilà, moi j'en ai fait beaucoup des rencontres à Berkeley qui m'ont fascinée, que ce soit des étudiants ou des profs ou des gens qui vivent à San Francisco et dans la vallée, dans la Bay Area. J'ai passé une année exceptionnelle et là je mixe entre des cours que je suis obligée de prendre, l'art de la guerre, l'économie, la business school de Berkeley et tout, et des cours que je suis pas obligée de prendre mais qui me subjuguent. Par exemple, un cours d'urbanisme donné par Ananya Roy, une Indienne née à Calcutta, brillantissime, qui théorise la façon dont les villes se sont construites à partir de rien, quel que soit le siècle dans lequel elles ont commencé à exister, et qui t'explique comment est-ce que la forme de la ville et la façon dont son architecture et son urbanisme a été pensée génère absolument une sociologie et une forme d'interaction entre les communautés, les êtres humains, le rapport à la surveillance, vu, être vu, n'être pas vu, exclure, intégrer, mettre au centre, mettre à la marge, etc.
Enfin, t'as qu'à voir en France avec les grands ensembles ce que ça a créé. Hein.
Exactement. C'est
100% l'urbanisme, la faute. Hein.
La conscience de ça, et pouvoir comparer les grands ensembles français ou grands parisiens avec la façon dont Marrakech est fait, dont Los Angeles s'est structuré, dont Buenos Aires s'est fabriqué, c'était extraordinaire. J'aurais pu ne jamais quitter son cours. Et rentrer dans ses ordres à elle, vraiment, c'était fabuleux. Et dans les autres cours que je prends, il y en a un sur la révolution iranienne, que je cite parce qu'il est génial, c'était vraiment génial. Et un qui va un peu reprogrammer, occasionner un changement de plan, alors que je pensais que je voulais être diplomate, et que c'est ce que j'avais de plus glamour à faire avec Sciences Po, c'était un truc de relations internationales dans lequel je suis à mi-chemin entre un agent secret et un ambassadeur. Ça me parlait complètement. Et je prends un cours optionnel qui s'appelle History of American Advertising. Et alors là, t'es une espèce de néo-hippie avec les cheveux gris comme ça jusqu'aux fesses et des jupes longues qui te raconte l'histoire des États-Unis à travers sa publicité et qui a compris que la pub était qu'un des témoins des époques. Et qu'elle pouvait te raconter l'émancipation des Afro-Américains à travers la publicité, l'émancipation de la femme, ou à l'inverse, son manque de considération à travers la publicité, etc. Comme une fenêtre sur le monde, tu vois. Ça, c'était génial. Et elle me shift, parce qu'elle est trop brillante, elle me shift sur mon métier d'aujourd'hui, en fait. Parce que je rentre, je fais mon master à Sciences Po sur la com et le marketing. Les cours sont un peu théoriques, pas forcément exactement ce que j'attendais et tout. Je reprends les piges, je reprends les soirées, je reprends ma vie parisienne bien, bien active. Et voilà, je plonge dans le monde des agences à travers un stage pour être sûre que c'est bien ça que je voulais faire. Parce que le niveau des cours était soudainement un peu pas le même qu'à Berkeley et tout. Et là, on va m'inoculer un virus de conseiller les
la
marques.
La publicité.
Se mettre, ouais, enfin, vraiment. Je commence par une agence très peu publicitaire en plus, qui est vraiment qui est la stratégie de marque, le conseil avec Jacques Seguela, Stéphane Fuchs, Agathe Bousquet, qui est la patronne de Publicis en France aujourd'hui. Et
c'est quoi l'agence?
À l'époque, ça s'appelait EuroRSTG CNO et maintenant ça s'appelle Havas Paris. Et c'est une agence à qui je dois beaucoup parce que Bah parce que ça là aussi beaucoup structuré mon cerveau très tôt. C'est une boîte qui m'a fait confiance, stagiaire, puis junior, puis directrice du Newbies et tout, mais à une vitesse incroyable, en faisant fi de mon âge et en me laissant quasiment être qui j'étais, dans mon énergie, dans mon amour du métier. Je me souviens un jour, mon président m'a dit tu n'as pas compris qu'on avait un actionnaire, qu'on appartenait à un groupe de 70 000 personnes, tu gères tes journées comme si c'était la boutique de ton père. Il m'a dit c'est incroyable, Bruno, on a de la chance, parce que... et c'est un peu vrai, je pense que c'est un peu vrai, je travaille avec le cœur, tu vois, je me pose pas... enfin, quand tu aimes ce que tu fais, c'est quand même extraordinaire, t'es contente que tes journées commencent. Donc là, je vais là aussi faire des rencontres extraordinaires, travailler avec des créatifs, mais aussi voir dans la même journée un client qui est une ONG, un client qui est un homme politique, un client qui est Normal Sup, un client qui est une entreprise qui a des gros problèmes de réputation, etc. Et me poser des questions hyper diverses. À ce moment-là, j'ai 22 ans, donc évidemment que c'est génial de pouvoir faire tout ça à 22 ans et de continuer à stimuler ton cerveau comme ça, en accéléré, tout en étant au baron toutes les nuits.
C'est pour le networking.
Parce que t'es pas encore une vieille dame et que ton corps peut tenir en dansant toutes les nuits et en travaillant la journée. C'est ça qui est extraordinaire. Je dois beaucoup à cette agence parce que en plus je vais y rencontrer mon amoureux qui deviendra le père de mon fils. Et c'est probablement d'ailleurs parce que je tombe amoureuse qu'au bout de 6 ans dans cette agence de rêve, je décide de shifter, de partir, parce que c'est bien aussi de pas travailler dans le même endroit que la personne avec laquelle tu vis, en fait. On va emménager et tout. Moi, j'étais rentrée dans cette agence que pour me faire envoyer à New York à terme. Re-New York, re-Fixette.
Ah, donc t'avais gardé Fixette. New York dans un coin de la tête.
Fixette. Et quand on va me proposer au sein du groupe RECG le job de mes rêves à New York, je serais déjà tombée amoureuse. Donc, rechangement de plan. Mais c'est bien, c'est ça la vie. Il faut se laisser déprogrammer. Je ne sais plus qui, il n'y a pas longtemps, m'a dit, mais quelle est la dernière personne qui a réussi à vous faire changer d'avis ? En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est les gens qui te font changer d'avis dans la vie.
C'est clair.
En fait, punaiser une idée fixe pour les 20 prochaines années, c'est prendre le risque d'être très malheureux, en fait. Et surtout de passer à côté de tout ce qu'on va essayer d'aimanter autour de toi. Il faut être très ouvert à ça. Ouais. Donc bon, bah, moi, je n'ai pas eu de problème. J'ai refusé le job à New York en sachant très bien pourquoi je le faisais. Et alors même que c'était... On m'aurait dit, allez, il y a quelques années plus tôt... il va t'arriver ça, Brune. Je pleurais des larmes de joie. Bah oui. Et voilà, et je vais partir au moment où j'avais dans cette première agence eu l'occasion de travailler sur le lancement du prix LVMH avec Delphine Arnaud et un monsieur génial qui est devenu mon ami, qui s'appelle Marc Alizard, et qu'LVMH était allé chercher, qui est philosophe, qui a bossé au Palais de Tokyo, au ministère de la Culture, pour créer le prix LVMH. Je vais avoir la chance de travailler sur ce lancement et de voir la première promotion du prix LVMH naître. Promotion parmi lesquelles Virgil Abloh va venir installer son stand à la demi-finale. Je m'en serai toute ma vie et nous faire changer les règles d'installation des booths pour pouvoir mettre son fauteuil.
Ouais, son fauteuil,
son fameux fauteuil grillagé, sur son stand, et vraiment dire, moi j'ai besoin de custom mon stand, les gars, il faut que je sente le... Voilà. C'était génial parce que, pour plein de raisons, c'était ma première expérience avec la mode, et je crois que c'était la plus jolie manière d'y rentrer, parce que quand tu commences par des jeunes
créatifs,
sur-talentueux, repérés par les yeux les plus importants de l'industrie, qui ont candidaté d'une façon hyper démocratique et égalitaire, qui est un truc qui me tient vachement à cœur. Parce qu'après tout, quand tu peux candidater sur un .com, ça veut dire que tu peux être Véjas, une marque canadienne exceptionnelle, d'un gamin qui à 19 ans a appris la couture sur YouTube et qui avait des parents qui, contrairement à plein d'autres, bah, n'auraient même pas eu le début d'une reco de comment faire carrière dans la mode. Et encore moins, je te présente à un tel et un tel et tous les amis qui viennent dîner le samedi. Pas du tout. Le fond du Canada. S'il n'y avait pas eu un point com pour candidater, ce gamin-là, il n'aurait jamais eu accès au showroom en pleine Fashion Week de la demi-finale du prix LVMH qui lui a permis de rencontrer en 3 jours une carrière entière de tous les gens qui pèsent dans cette industrie.
Ouais. Anna Wintour qui vient faire le petit tour du stand.
Ouais. C'est ça.
Ouais, là, tu dois être impression.
Voilà, c'est... Et d'ailleurs, d'une certaine façon, pendant 8 ans, parce que le prix a déjà 8 ans, j'ai chaque premier matin du showroom, je suis passée voir les jeunes designers en leur demandant comment ils allaient, s'ils se sentaient bien, s'ils avaient conscience qu'il fallait profiter de ces jours-là, même si ils sont stressants. Jeanne-Marine Serre en larmes, il y avait sa mère, elle était avec sa maman. Elle pleurait de stress le premier matin du premier showroom de la demi-finale parce qu'en fait, trop de pression.
Ouais. C'est une pression énorme.
Pression énorme, tu dois faire tes preuves et tout. Je me souviens de Jaraf, je me souviens de Julien Dossena, les Coperni, Simon Porte-Jacquemus. En fait, c'est très joli à regarder. C'est une grande chance d'assister à ça. Et ce que je trouve joli aussi dans ce prix, au-delà du fait que le début est très démocratique, c'est qu'on oublie un peu la fin. Même si, bien sûr, c'est bien qu'il y ait des gagnants. Mmh. Mais il y a tous ceux qui n'ont pas gagné et c'est OK aussi. Et d'ailleurs, Virgile, à la dernière finale, le premier truc qu'il a fait quand Delphine a annoncé qu'il avait gagné, Virgile, il est allé directement voir tous ceux qui n'avaient pas gagné, donc les 8 autres, pour leur dire, les gars, je veux juste vous dire que moi, j'ai, il y a quelques années, il y a 8 ans, j'étais là et j'avais pas gagné non plus.
Tu peux participer plusieurs fois.
Non, il était. Ce qui est extraordinaire, c'est que Virgile, en septembre dernier, pour la dernière finale, il était devenu membre du jury. Il faisait partie des.
Il n'avait pas gagné avec Off-White.
Ouais, tu veux, il n'avait pas gagné avec Off-White, mais il est comme Mathieu Williams, comme un tas de gens qui sont passés par le prix.
Ça reste un tremplin.
Ils ont rebondi. Ensuite, ils ont eu un job, et il se trouve que pour Virgile, en plus, il est devenu donc. Carrément membre du jury du prix. Ouais. Donc, 8 ans plus tard, c'est lui qui faisait passer les auditions. Il était passé de l'autre côté de la table, tu vois. Il leur a dit, moi non plus, je ne suis pas allée jusqu'au grand prix ou au prix spécial. Et ça n'a aucune forme d'importance. Vous avez tous gagné, etc.
Ouais.
Bref. Donc ça, c'est ça qui m'a... Ça a été mon premier contact avec la mode, le luxe, etc. Parce qu'avant ça, mes clients étaient beaucoup plus ou industriels, ou corporate, ou public. Et c'était super aussi, hein, mais... C'est vrai
du coup,
que ça
t'accroche.
Ça m'a fait shifter, ouais.
Encore un shift.
Et donc là, re-shift, re-changement de plan. Et c'est comme ça que je rejoins une agence qui, à l'époque, s'appelait BETC Luxe et que j'aurai la chance de co-diriger avec un certain nombre de camarades pendant 7 ans. Et où là, ma vie va consister à faire vraiment le même travail de conseil, d'accompagnement des marques. Simplement sur des industries plus précises, donc la mode, la beauté, le luxe. Et
là, on est d'accord que tu n'as pas 30 ans. Hein. Quand tu prends la co-direction du truc, tu as moins de 30 ans.
Ah oui, là, on est en 2014, donc j'ai 28 ans. On est en mai 2014. Donc là, c'est une équipe à la base de 30 personnes, et puis à la fin, on était 70, et c'était extraordinaire. Encore un chapitre absolument génial. Parce que toutes ces aventures-là auprès des marques, et en plus de ça, j'avais rencontré Marie-Amélie Sauvé parce qu'elle travaillait avec mon frère auprès de Nicolas, chez Balenciaga à l'époque, Nicolas Ghesquière. Et en fait, Marie-Amélie, avec qui on a commencé à discuter et puis que j'aidais à réfléchir à un projet de média, a fini par me dire « Tu veux pas qu'on monte un magazine ensemble ?» Et j'ai dit « Je serais honorée, mais dis-moi juste que c'est pas un féminin de mode. » Elle m'a dit « Ah non, quelle horreur !» Et l'histoire a commencé comme ça. Et on a, avec BETC comme éditeur, comme publisher, monté Mastermind. Il y a, je sais pas, je dirais, en même temps que j'ai fait mon bébé, donc en 2016. sorti en février 2017, le tout premier numéro. Et la vision qu'on avait pour ce magazine, c'était d'abord oui, du papier. Mmh. Toutes les maisons qui m'ont demandé mais pourquoi vous allez commencer à imprimer du papier en 2017, c'est fini le papier, faites un média digital. Oui, du papier. Mais dans un objet, là où l'avenir de la presse probablement poussera, c'est-à-dire dans un objet hyper collectible, qui a du sens et qui justifie le fait d'ouvrir quelque chose qui ressemble plus à un livre d'ailleurs et qu'on va garder chez soi et qui peut devenir un peu iconique d'une forme de mémoire de l'époque, quoi, quelque chose de très contemporain et de tout sauf jetable, de tout sauf fast reading. Et qui va sortir tous les 6 mois et qui sera un semestriel avec du contenu froid, du coup. Parce que c'est tout l'intérêt de ce genre de... Mais qui peut contenir de la fiction. On s'est beaucoup amusé à parler de tout. D'architecture, de phénomènes de société, des sorcières, des sectes, du cinéma. Entrer dans le cerveau de quelqu'un, prendre le temps de mettre 10 pages sur le même sujet si t'en as envie. Et de faire la part belle à l'image, mais aussi au texte, de s'autoriser des pages entières de conversation. C'est ça aussi qui donne de la valeur à l'objet et au travail des 6 mois que tu mets à monter un numéro. Et on l'a monté en se disant il faut qu'il soit le même partout dans le monde, dans quelques villes du monde où il y a des gens qui certes n'ont pas le même chemin, ne vivent pas au même endroit et ne consomment pas la même chose, mais... auront tous cette même forme de curiosité dans un truc très no gender, quoi, pas du tout un magazine féminin et dans lequel il y a de la mode mais presque en touche. Et ça c'était génial à faire en parallèle de mes activités d'agence, c'est vraiment super. Et voilà, et puis au bout de 7 ans j'ai eu la chance de rencontrer Paul-Emmanuel Reffers, que j'ai rejoint il y a 7 mois, qui lui aussi m'a fait changer de plan parce que d'abord j'étais très concentrée à ce moment-là sur la sortie du Covid, la protection des emplois. J'étais pas du tout en train de me poser des questions pour ma carrière, que j'ai pas vraiment de toute façon pris le temps de faire un jour. En fait, je crois pas beaucoup à ça, il n'y a pas de plan de carrière. En tout cas, moi j'ai jamais fonctionné comme ça. Simplement, je pensais juste que une fois la tempête Covid passée, je commencerais éventuellement à me demander si mon avenir est dans une maison, notamment parce que c'est beaucoup les conversations que j'avais ou la nature des sollicitations que j'avais l'honneur de recevoir. Et Paul-Emmanuel demande à me rencontrer et me dit, moi, je crois pas du tout que ce soit ça qui faille faire, Brune, tu perdrais toute ta liberté.
Quand tu me l'as dit, on a eu une discussion il y a quelques années sur ça, quand tu m'as dit ça, j'ai dit, mais je te vois tellement pas dans une maison, c'est tellement restrictif par rapport, tu vois, genre, tout ce que tu touches dans les jobs dans lesquels t'as été.
Ouais. Je sais pas si c'est une idée que je me fais, un fantasme, mais j'ai l'impression que pouvoir épouser pleinement un projet... Ouais.
C'est la frustration que beaucoup de personnes en agence ont.
Le pousser, tu vois, le pousser dans toutes ses dimensions, le porter, le défendre en tout point, en fait. C'est un truc assez extraordinaire, mais on verra bien où la vie nous mène, tu vois. Enfin, je regrette absolument pas, de toute façon, d'avoir choisi une fois de plus la liberté au sens de la diversité des sujets, parce que voilà, quand Paul-Emmanuel m'a raconté de quoi était fait le groupe que j'ai rejoint, qui contient une agence un peu proche de ce que j'ai connu, mais en même temps qui n'a rien à voir, qui est beaucoup plus geek, beaucoup plus tech, beaucoup plus innovante. Croisée avec une agence de défilé de mode qui s'appelle La Mode en Image, qui est complètement mythique, qui a inventé l'exercice du fashion show dans sa forme actuelle, qui a créé une catégorie et tout. Et croisée avec une vraie marque média qui s'appelle Numéro. Et tout ça à Paris, à Shanghai et à New York.
Et une galerie aussi.
Soudainement. Et un studio mythique qui s'appelle le studio des Acacias, qui est une galerie. Et lui a ses propres activités, ses propres engagements personnels. Ça s'appelle le Reffers Art Initiative.
Pardon.
Il a son propre fonds de dotation personnel. Et ça s'appelle le Reffers Art Initiative. Et ça, c'est parti du principe que... l'art contemporain français était très en retard sur la diversité et méritait vraiment de l'aide sur ce point. Et il y a quelques temps, il a ouvert ce fonds pour justement, précisément, pouvoir pousser des artistes, les défendre, les faire rayonner. Et c'est assez génial parce qu'il le fait hyper sincèrement. Lui est un collectionneur. Son grand-père était collectionneur, lui a donné l'amour de ça. Il a grandi en Côte d'Ivoire, Paul Emmanuel, et il a découvert la France. Lui aussi, c'est d'une certaine façon déraciné. Il a découvert la France à 14 ans, en fait. Donc, je pense que ça structure complètement une forme d'ouverture d'esprit, d'intelligence culturelle que tu perds plus après. Pour toutes ces raisons-là, c'était difficile de pas changer d'avis. J'ai changé d'avis assez vite pour le rejoindre et je suis devenue sa vice-présidente il y a 7 mois. En même temps que j'ai fait un move personnel hyper important pour moi, j'ai acheté mon premier appartement. Je le dis parce que ça a été une aventure qui m'a rendue dingue. Moi, paradoxalement, j'ai pas de passion pour le shopping de mode. Toutes les nuits, je suis insomniaque et j'achète des objets, j'achète des meubles et tout. Ça me parle beaucoup plus. Et alors ça, faire mon appartement, c'était un truc extraordinaire pour moi. De tout retaper, rénover, on a acheté une ruine.
Génial.
Et c'était génial à faire, quoi. Et puis faire ça pour sa famille et tout, j'ai trouvé que c'était un projet canon. Ça, c'est ma vie des derniers mois.
Toi, t'aimes Bravo. Bien rajouter des strates. Hein. C'est genre, ok, je change de taf, appartement, les enfants. C'est au plus on peut rentrer, on rentre. Hein.
Non, mais j'adore. Et j'ai continué avec les écoles aussi parce que ces dernières années, c'est un truc qui m'a beaucoup émue. J'étais marraine pendant plusieurs années des promotions de l'ISEM S-Mode, qui est la business school de S-Mode. Ce qui m'a permis de rencontrer des talents exceptionnels qui étaient plus ou moins déterrés ou plus ou moins perdus. Et les deux sont chouettes à rencontrer parce que dans tous les cas, si tu peux leur venir en aide et au passage réaliser en les écoutant tout un tas de choses aussi sur la génération de talents qu'eux représentent, ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup j'ai donné aussi du temps et on m'a donné beaucoup de confiance dans une école qui s'appelle Sub de Pub. J'ai fait aussi quelques masterclass à Sciences Po, c'était génial. Je fais une petite fixette sur les rencontres étudiantes. Je pense que c'est vraiment un truc qui me nourrit beaucoup. Et j'ai l'impression que ça rend aussi mon quotidien moins dérisoire ou en tout cas plus contributif que... j'ai de la chance hein, de réfléchir qu'à des sujets passionnants, mais j'ai la sensation que quand même à la fin, si je peux faire quelque chose qui consiste aussi à permettre à ma génération de professionnels de s'engager pour la suivante, d'aider. Un jour, la directrice de l'école de mon fils, elle m'a dit, ça porte un nom, madame, ça s'appelle les cordées de la réussite, et j'ai trouvé ça magnifique comme expression. Ouais, il paraît que c'est le titre d'un livre d'ailleurs que j'ai pas lu. Et les cordées de la réussite, c'est un truc chouette quand toi t'as la chance d'être heureux dans ce que tu fais, peu importe que classiquement tu sois lu comme quelqu'un qui a réussi ou pas, c'est même pas mon sujet. Juste que j'ai la sensation moi de m'épanouir beaucoup dans mon quotidien. Je suis hyper heureuse et je me dis qu'en fait mon seul devoir là, c'est juste de tirer la corde.
Give back. C'est important.
Ouais, tirer la corde pour des jeunes qui ne savent pas encore exactement ce qui va les rendre heureux ou de quoi ils sont capables ou qui ont parfois besoin d'un coup de pouce parce qu'ils ont des notes de merde et qu'ils ne vont pas avoir leur diplôme sauf si tu leur dis mais en fait t'es pas fait pour ci, t'es fait pour ça, t'es un créatif, on va rajouter un cycle on va ajourner la prise de décision sur ton diplôme et tu vas faire un stage dans telle ou telle prod et tu vas voir que en fait le métier de la photo ça peut-être ça te parlera plus et tout. Et le Elliot dont je vous parle, il a réussi à avoir son diplôme parce qu'il est allé faire un stage à un endroit où son talent et sa sensibilité allaient être mis à contribution, alors que l'école et lui ne s'étaient pas compris pendant plusieurs années. Donc c'est hyper important, je crois, de pouvoir le faire. et d'emmener les marques là-dedans, parce que ça, ça a été un autre truc assez génial. J'ai dit à Givenchy, mais c'est génial, vous avez... Vous savez qu'Hubert de Givenchy a fait les Beaux-Arts, vous savez que les Beaux-Arts s'engagent pour qu'il y ait des enfants, des adolescents qui viennent au métier d'artiste, alors même qu'ils n'étaient pas du tout encadrés pour ce niveau d'ouverture d'esprit. Je pense qu'il faut les aider, et on a ouvert une classe, on a ouvert une deuxième classe de Via Ferrata, intégralement soutenue et créée grâce à Givenchy, qui est une forme en plus d'hommage au chemin qu'avait fait Hubert de Givenchy en s'extrayant lui-même d'une vie aristocrate de province dans laquelle être créateur de mode et être homosexuel, c'était ni c'était ni. Donc c'est génial, quoi, parce que enfin moi en tout cas c'est les chemins qui m'intéressent, et je pense que c'est probablement pour ça que les jeunes designers sont restés une petite passion peut-être un peu supérieure à, ou encore supérieure à celle que j'ai pour les créateurs tout court, quoi. Je trouve ça hyper, les débuts, je trouve ça extraordinaire. C'est encore plus passionnant à regarder ou à suivre.
Quand t'as tout à faire.
Que le climax de la, tu vois, que le moment où ils explosent, qui est très mérité de toute façon à chaque fois, hein, mais vous intéresser à l'avant, c'est génial, je trouve. Voilà.
Mais c'est un parcours exceptionnel. Franchement, je pense que la plupart des personnes qui te connaissent, je parle peut-être plus particulièrement des femmes, sont hyper impressionnées par ta réussite et la manière dont tout s'est passé de manière assez logique, mais en même temps très rapide. Je sais pas si c'est un recul que tu as, si c'est une réflexion que tu t'es faite et que tu t'es expliquée quelque part ou pas du tout.
Non, je ne me suis jamais posé la question. Le rapide, je l'ai compris quand mon âge est devenu un sujet, parfois.
Ouais.
Que ce soit dans un entretien où tu demandes une augmentation et où l'âge peut être un argument.
Une femme, jeune.
Un argument intéressant pour freiner tes
prétentions,
tes revendications. Voilà. Ou bien à d'autres moments, quand la question de la légitimité se pose, parce que les gens, voilà. Peuvent éventuellement s'obséder sur l'âge, et c'est ça qui te fait réaliser que oui, mais la conscience de l'âge, moi je l'ai jamais vraiment tout à fait eue, parce que voilà, j'étais déjà enfant, j'étais pressée d'être adulte, donc une fois adulte, après je me suis vu, ça y est, j'étais catégorie adulte, tu vois, il y avait plus de, je sais pas, je crois que après les trucs se font de façon très organique, et ouais. J'ai eu de la chance, j'ai eu tellement de chance surtout. Et je me pose le moins de questions possibles, en tout cas me concernant. Voilà. Et après, moi aussi, je suis entourée de gens géniaux qui m'ont emmenée là où je suis.
T'es très team, toi. Hein.
Ouais, je vois. Clan.
T'es très clan.
Je suis très clan. Je grandis en. On fait rien tout seul. Hein. Donc. Voilà. Donc. Je sais très précisément, et ils savent aussi, tous ceux qui m'ont embarqué dans leur cordée, justement, et tous ceux que j'ai embarqué sur ma corde dans la foulée, sans qu'il y ait de hiérarchie là-dedans. D'ailleurs, c'est pas le sujet, en fait. C'est vraiment un truc de troupe. Je pense que le théâtre te donne aussi l'esprit de troupe, si je suis honnête. C'est peut-être le truc que j'ai gardé. C'est qu'au théâtre, tu fais rien tout seul non plus. Tu vois, quand tu montes sur scène, à la fin, j'étais à la Comédie Française la semaine dernière, et Galéane, il n'y a pas une fois où il vient saluer seul. Contrairement à l'opéra, par exemple, tu vas voir un ballet, toujours un moment de salut qui détache certaines figures de proue du ballet pour qu'il salue plus seul. Et là, tu sens les applaudissements, tu sais, s'emballer. Et décuplé, à la Comédie Française, il n'y a pas ça. Ils saluent tous ensemble.
Ouais, c'est vrai.
Et même ceux qui ont un tout petit rôle, ils saluent tous ensemble. Et cet esprit de troupe, je crois que c'est un truc assez génial. J'y avais jamais pensé, mais en discutant avec vous, je me dis peut-être que c'est ça, ou alors c'est encore avant. C'est familial. Mais dans tous les cas, je ne sais pas le faire autrement. Mon Lego n'est que de cette forme.
C'est hyper beau.
Moi, j'ai une question, c'est comment tu fais à tout rentrer ? Tu vois, genre, quand on te voit de l'extérieur, je t'ai déjà dit en privé, mais c'est vraiment... Tout a l'air parfait. Je sais qu'on a eu la chance de travailler ensemble. T'es quelqu'un de brillant. Genre, comment t'arrives à gérer la vie de famille, la vie de femme, la vie professionnelle, et puis tout ce que toi, en plus, tu te rajoutes autour?
Bon, déjà, heureusement que c'est un podcast, comme ça on voit pas ma gênance. Et ensuite, heureusement que ma carnation ne permet pas de rougir. Je n'ai pas la fonction rougir. Mais intérieurement, je rougis beaucoup. Donc, non, je sais pas, je pense que c'est beaucoup moins difficile pour moi que pour plein de femmes qui peuvent pas avoir une nounou, peuvent pas avoir d'aide à la maison, et ont des quotidiens beaucoup moins libres. Donc je me suis jamais demandé si j'allais y arriver. Bon, pour moi c'est déjà beaucoup plus facile que pour tout un tas de gens moins privilégiés que moi. Et ensuite moi j'ai l'impression que ma façon la plus saine de me protéger, c'est de pas renoncer à tout ce qui me met en joie. Donc j'ai besoin de voir mes amis, même si je suis mariée, pas mariée et maman. Bah oui, j'ai encore besoin de voir mes potes et c'est très important pour moi de leur donner des heures. Et je protège des capsules de temps pour ça dans ma vie. C'est très 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 important pour moi. Oui, j'adore travailler, mais en même temps, je veux faire dîner mon fils le soir. Et c'est pas si compliqué, c'est une question d'organisation. Et voilà, et puis l'autre truc, je pense qu'il ne faut pas se faire mal. Donc, il faut connaître vraiment la limite des quantités de travail. Et c'est aussi ça le sens, je crois, hein, de notre génération à nous. Elle est aussi là quand même pour éviter de reproduire certains schémas de surmenage qui ont été très dangereux et dans lesquels... la plante démoniaque du travail ou de l'amour, hein, parce que tout le monde n'a pas le même démon, mais moi là je vais parler de travail en tout cas, la plante démoniaque du travail s'est mise à bouffer le reste et à ronger l'équilibre personnel, la capacité à être juste heureux, à dormir suffisamment.
C'était un truc très mis en valeur, c'était genre bute-toi jusqu'à ce que t'en puisses plus physiquement, psychologiquement. Ouais.
Aujourd'hui c'est plus moderne, en tout cas je crois, de travailler vite que de travailler beaucoup.
Bien sûr.
La clé, c'est de travailler vite. Juste parce qu'en fait, le nombre d'heures dans une journée, il est contraint, il ne poussera pas. Donc en travaillant vite, en étant exigeant mais en travaillant vite, de toute façon, on se protège. Et on protège les gens autour de soi. C'est vraiment comme le masque à oxygène. Hein. C'était très important de toute façon pour nous tous et pour nous toutes de montrer l'exemple, de ne pas passer la nuit au bureau tous les soirs. Parce que sinon, à un moment, le message que tu envoies aux gens qui travaillent avec toi, c'est celui-ci. C'est l'idée que pour que ça marche, il va falloir faire comme ça. Et c'est faux, en fait. C'est vraiment très important que ma génération de personnes qui travaillent raconte, porte ce message-là. Explique qu'on peut tous tout viser et qu'il n'y aura pas de sacrifice à faire. Bien sûr qu'il y a des tas de soirs où j'ai des obligations professionnelles, des dîners, des événements qui font que je ne suis pas avec Joseph, mon fils. Et il n'en est pas moins heureux parce que lui, de toute façon, c'est très important qu'il grandisse comme un petit garçon qui a des repères affectifs multiples et pour qui mon absence n'est pas une source d'angoisse. Donc, lui aussi, je lui ai fait son clan. Dans son clan, il y a des adultes qui sont mes potes à moi et qui déboulent dans sa vie à la sortie de l'école et qui l'emmènent marcher pendant des heures. Et c'est ça que j'ai rêvé pour lui. Je rêvais pas. Je suis pas assez narcissique pour me dire que on allait entrer en dépendance l'un avec l'autre et que je peux pas vivre sans moi. Le but, parce que tu fais pas des enfants pour ça, tu fais des enfants au contraire pour qu'ils sachent vivre sans toi, même si je nous souhaite de vivre collés le plus longtemps possible. Mais en fait, c'est pas ça la maternité. En tout cas, moi, je voulais qu'il ait son clan, que son clan ressemble beaucoup au mien, et puis lui il rajoute des gens dedans qui sont un peu plus petits que moi, et c'est très bien, tu vois, ce mix là est cool. Je pense qu'il faut pas s'inventer des problèmes quand il y en a pas, quand on a de la chance de vivre ce qu'on vit. En tout cas, moi, j'ai pas du tout, je me dis pas, mais comment je vais aller au bout de cette journée? Voilà, je suis en fast life. J'ai conscience aussi de ça, hein, que ma journée ressemble à un burger. Je vais pas vous montrer l'agenda, mais...
Je l'ai vu. Je l'ai vu quand on a rentré le...
Il est un peu en mille feuilles, en mille crêpes, et c'est pas grave. Moi, c'est comme ça que j'ai choisi. C'est ça qui me rend heureuse. Mais je sais que c'est pas une recette pour tout le monde, en revanche.
Non, bien sûr.
Voilà. Je l'imposerai à personne. Je vis avec une force tranquille qui prend sa guitare quand il rentre du boulot, qui aime être seul, passer du temps chez lui, au calme, aller marcher seul, etc. C'est un truc que je comprends, que je fais pas, mais que je capte.
Mais c'est bien d'avoir une balance.
Que je respecte. C'est très équilibrant, c'est très apaisant, hein, d'être entouré de gens qui sont pas des petites piles électriques qui courent partout comme ça, qui croient qu'il faut s'occuper de tout le monde et... Mais bon, moi, j'avais une mère qui remettait les chaussettes des enfants dans le métro.
Ouais.
Donc, de toute façon...
J'adore.
Elle se sentait concernée partout. Donc, elle m'a bien flinguée aussi. Elle est fabuleuse.
J'ai peut-être une dernière petite question. T'en as parlé indirectement. Ça fait quoi, plus de 10 ans maintenant que t'es dans cet univers des agences. Comment est-ce que t'as vu les choses évoluer? La place, la structuration
De la femme, tu veux dire?
Non, des agences.
Des agences, ouais.
Je pense que notre rôle, il est... Bon, il a toujours un peu été, à mon sens, central et latéral, et c'est ça qui est très agréable dans la position de celui qui donne des conseils. C'est qu'il y a toujours eu des conseillers, il y a toujours eu des consultants, il y a toujours eu des extérieurs, je les appelle comme tu veux, des studios, des freelances, des agences, des gens comme ça qui gravitent et qui font des collabs, en fait. Après, tu donnes le mot que tu veux, plus ou moins moderne, mais en réalité, le schéma reste le même. Et il est très intéressant, et même à l'échelon personnel, il est très intéressant de se dire, là, je vais aller me frotter à un cerveau qui est extérieur à l'écosystème, et parce qu'il est extérieur à l'écosystème, il a un regard différent sur mon problème. Et ensemble, on va formuler une solution que lui ne pourra pas formuler seul. On ne fait rien tout seul. Les agences ne font rien toutes seules. Ça n'existe pas. Un créatif ne fait rien s'il n'a pas un exercice. Sinon, il fait de l'art. Mais en fait, quand il est avec une marque, on lui donne une épreuve et c'est la contrainte de l'épreuve qui va générer un truc. Et c'est ça que je trouve génial. C'est cet exercice-là où tu team up comme ça, le temps d'un projet ou bien toute l'année. Et on va sortir de ce travail d'équipe un truc différent de ce que la personne aurait fait sans aide extérieure, et évidemment inimaginable par l'extérieur tant qu'il n'est pas rentré comme ça en consultation. Donc il y a un truc assez je trouve assez génial. Donc ça, c'est pour se dire c'est le même métier de tout temps et ça existera toute la vie. Juste pour tous ceux qui ont eu envie de se dire c'est la fin des agences, ou c'est le boom des agences, ou les agences reviennent.
Ouais, c'est ça, parce qu'on a un peu métier. Des messages contradictoires,
oui, voilà.
Tu vois.
Ça, c'est le média show, c'est celui qui consiste à trouver dans ce qui se passe des événements et des rebondissements et tout, et c'est ok, hein. Bien sûr qu'après, à l'intérieur, il y a des mouvements, des tectoniques, des plaques plus ou moins intéressantes à regarder. Pour moi, les plus intéressantes, c'est les plaques disons corporate et commerciale de la marque qui se sont bien cimentées l'une à l'autre et qui maintenant aujourd'hui ne se posent même plus la question de est-ce que le citoyen et le consommateur ou le futur client c'est la même personne. Oui. Est-ce qu'il fait ses choix avec ces deux cerveaux là en même temps? Oui. Et donc est-ce que ma marque elle doit à la fois monter en désirabilité et en responsabilité et savoir très sincèrement à quel endroit est sa cause, sa brand cause. Ce qui est un de mes exercices préférés avec les marques aussi, c'est de réfléchir à leurs engagements et de se demander ce qui est le plus légitime, sincère, correctement fait, plutôt que construit d'une façon très marketing pour cocher une case. Ça, c'est, je trouve, une tectonique de plaque hyper intéressante. Évidemment, l'autre révolution que j'ai trouvée géniale à observer, c'est la montée en puissance du rôle de la technologie et de l'innovation à l'intérieur d'un écosystème de marque, qui fait que, bien sûr, ça change tout pour tout le monde. Voilà. Ça change évidemment le workflow, mais ça change aussi la création. Hugo Comte, big up, en parle également, lui, d'une façon très naturelle, parce que ben, sur un cerveau d'architecte débarque le Web 3 et tu vois ce que ça donne. Bien sûr, ça change tout pour tout le monde.
Ouais.
Et c'est une révolution qui ne fera pas demi-tour, au contraire, elle nous ouvre des tonnes de possibilités. Ce qui est très agréable à constater, c'est que, spécifiquement pour la mode, mais pour d'autres industries aussi, le contact charnel avec le produit ne partira jamais, ne disparaîtra pas. Mmh. Et quand eux te racontent que, oui, on peut avoir faire un très beau film, un très beau morceau d'entertainment autour d'un show pour amplifier ou présenter sa collection, certes, on peut faire ça, mais qu'à la fin, on capte un vêtement quand on le voit défiler, et au bruit que fait une robe de haute couture, au flow qu'amène tel ou tel look quand il rentre sur le podium, il y a un truc qui ne se remplace pas, et plus généralement de toute façon entre les êtres humains, et qui fait que voilà, moi j'ai aucune paranoïa sur le rôle de la tech dans un écosystème. Je pense que les émotions très physiques, très tangibles, très, très sensuelles de tout ce que les industries de la beauté, de la mode, du luxe, du voyage, de l'expérience, en fait, peuvent promettre, ça disparaîtra pas. Donc voilà, ça c'est évidemment une sorte de mouvement perpétuel qui est hyper chouette à regarder et qu'il faut voir comme un terrain de jeu amusant. Voilà, sans se mettre en breakdance tous les trois matins pour sortir, pour sauter sur ce qui vient d'arriver, parce que évidemment ça fait faire des trucs pas passionnants. Il faut surtout se demander ce qui est vraiment émouvant, vraiment intéressant. C'est une affaire de personne aussi, à qui tu fais réfléchir autour de la table, c'est ça qui est génial. Tu montes une petite troupe à chaque fois que t'as un nouveau projet. Dis, bon, bah là, c'est qui le mélange de cerveau fou que je peux faire pour avoir des idées plus folles que les idées folles. Moi, c'est ça que je trouve génial dans notre métier, en fait. Qu'à la fin, c'est de la création et que tu réfléchisses avec un directeur de création, un réalisateur, un architecte, un scénographe, un journaliste, un maître chocolatier comme Patrick Roger, un peintre. Enfin, en fait, on a tellement de chance, quoi. Il faut le reconnaître.
C'est une belle conclusion.
Ouais.
Merci beaucoup. On va finir avec nos petites questions limites qu'on pose à la fin de chaque entretien. Je commence. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Ou un conseil que toi tu veux donner?
Je pense que le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est effectivement, un jour on m'a dit quelle est la dernière personne qui t'a fait changer d'avis. Et je pense que dans cette question, il y avait un conseil caché comme une petite pépite de choco. qui est de garder les antennes très ouvertes à ceux qui font changer d'avis. En fait, je crois que vraiment, c'est un truc hyper... enfin, moi, en tout cas, je me sens pas du tout trimballée comme une boule de flipper dans l'existence. Je me sens juste chanceuse qui, comme ça, a eu des changements de plan, mais le plan, c'est le changement de plan.
Ouais.
Enfin, je crois. Je crois que c'est ce qu'on a concocté pour nous, mais peut-être que je me trompe, mais moi, c'est ça qui m'excite dans l'existence, quoi.
Ok, c'est un super conseil. Est-ce que tu as un talent caché? Il y a beaucoup de talents qui ne sont pas cachés, mais est-ce qu'il y a un talent caché?
J'ai un talent caché de fou. Et là où j'ai du bol, c'est que je vais pouvoir vous montrer sans me décrédibiliser à vie, puisque c'est visuel et que donc on ne verra pas dans ce podcast mon talent caché, mais il est énervé. J'ai compris petite que je pouvais faire un truc avec mes yeux qui change complètement la face du monde de ma personne, et qui a fait virer de classe mon meilleur ami Thomas, qui écoutera ce podcast aussi à ce stade du podcast. Malheureusement, il se sera endormi parce qu'il connaît toute ma life, mais c'est ça.
Ah oui.
Ça fait très peur, et surtout ça fait descendre un tout petit peu le niveau d'intelligence perçue. Et je peux rester comme ça très longtemps.
Ah ouais, ça peut casser le délire.
Ah ouais, c'est dur.
Ça peut casser le délire.
Ouais, je vais pas regarder.
Et bon, bah ça, et
c'est très dur.
Que
c'est très dur. Mon frère le fait d'un œil.
Ouais.
Donc il doit y avoir un air chelou qu'on nous a fabriqué familialement. C'est très difficile à faire. Ça consiste à contracter toute la paupière. Ouais, ouais. Ça change complètement le regard. Je peux le faire que d'un côté
ouais.
aussi.
Ah, ouais, ouais.
Ça, c'est mon talent caché. C'est gore. Je vous avais prévenu.
Oh là là. Un petit guilty pleasure.
Guilty pleasure de folie. Ça consiste à être sur eBay, Leboncoin, Salenti, Pamono, VNTG.com.
En même temps.
En même temps.
En multi, tu sais. Ouais. Avec tous les écrans.
C'est un truc, si j'ouvrais là mon Safari d'iPhone, vous seriez en panique totale sur la nature de mes nuits.
Ouais.
Ça, c'est guilty pleasure de folie. Puisque le seul temps seul que j'ai, c'est la nuit. Et que j'ai un petit penchant insomniaque, je fais ça la nuit. Et je fais la même recherche, je vous parle même pas de ce que je cherche comme type d'objet. Parce que ça, c'est vraiment anormal. J'adore chiner du vintage sur toutes ces petites plateformes. Voilà, c'est mon guilty pleasure. Voilà.
C'est bien.
Super. Vas-y.
C'est moi ?
Ouais.
Ok. L'emoji que tu utilises le plus ?
Alors...
Attention, ça définit les gens, ça. Hein.
Ouais, non, bon, alors moi, c'est classique de folie, mais il y a un petit twist. Il y a une petite coquetterie. Au lieu d'utiliser donc clairement le cœur rouge de loin, mais de très très loin, toute la journée, parce que c'est mon langage, et puis vous avez compris, je crois que à ça, de toute manière. C'est juste que dans les emojis d'iPhone, il y a le cœur rouge qui est dans les cœurs de couleur et il y a un cœur rouge qui est dans les motifs de jeu de cartes et il est plus beau parce qu'il est velouté. Il est rouge mat, là, un peu plus foncé et tout. Il est beaucoup plus... En tout cas, moi, il m'émeut plus. J'ai l'impression qu'il dit mieux mon cœur. Alors, c'est celui-ci que j'envoie. Toute la journée qu'il est en haut, à gauche maintenant de mes emojis, les faves. Ouais. Parce qu'évidemment, c'est celui que je torpille toute la journée.
Ok. Est-ce qu'il y a un compte Instagram que tu veux nous conseiller ?
Oula, autre guilty pleasure que j'ai pris soin de cacher, des comptes Instagram inavouables.
Ah yes,
ouais.
C'est le moment d'avouer.
Non, moi, c'est horrible, je suis sur des comptes ASMR, Satisfying Content, qui te mettent des trucs, donc c'est pas ça, je peux pas décemment conseiller ça, mais à regarder ces trucs de slime et de trucs qui se font écraser.
Ouais.
D'objets qui se font compresser et tout. Ça, c'est énorme.
La presse hydraulique, là.
La presse hydraulique, qui comprime les objets, là, qui les ratatine et tout. C'est...
ça, c'est énorme. C'est énorme.
C'est complètement hypnotique.
Ouais.
Ouais.
Donc, ça, j'adore. Et voilà. Et après, j'adore The Casting Issue. Je ne sais pas si vous connaissez.
Ah, le compte d'antenne.
Non, voilà. Il y a plein de. De compte que je suis. En même temps, j'ai un niveau de patience assez limité sur Insta. Une fois que j'y suis, j'arrive même pas à aller. Je suis jamais allée au bout de mon feed et tout. J'ai pas la patience.
Ok.
Ok. Et la dernière, est-ce qu'il y a une tendance mode que t'as jamais comprise? Tu t'es dit, non, ça, c'est pas possible.
Ouais.
Allez.
Le truc sur lequel je bloque, là, je vais pas dire. Avec qui j'en ris, mais elles se reconnaîtront, c'est la tongue à talons.
Ah
ouais, ça, on n'y avait jamais pensé, tu vois.
La petite mule, ouais. Vous la voyez, hein.
Ah.
Avec le
Mais il y a une
micro-talon.
Il y a une grosse marque de mode qui a sorti un truc comme ça, il n'y a pas longtemps.
J'ai dit qu'on n'aurait pas de nom, il n'y a pas de nom.
Okay. Non,
juste, c'est le truc qui passera pas par moi.
Okay.
J'y arrive pas...
Cet été, je te verrai pas avec ça, quoi.
Non, ni même quand je serai une très vieille dame qui pourrait être tentée pour plein de raisons par la tongue à talons, ce sera non.
Ce sera non.
Ce sera non.
Merci beaucoup, Brune.
Merci
pour ton temps,
Brune. Trop bien d'être avec vous.